Bonjour à tous. Une journée inédite entre l'élection présidentielle et en même temps un culte de baptême. Pour chacun, un choix, une responsabilité citoyenne et une obéissance à Dieu, au roi. Alors dites-moi, qui sera votre candidat personnel? Qui allez-vous suivre? Nous vivons aujourd'hui une journée historique et l'issue de ces prochains jours sera cruciale pour notre société. Elle impactera le monde du travail, les sphères politiques, économiques et sociales. Bref, l'heure est à la décision. En qui allez-vous placer votre confiance? À quel candidat allez-vous donner le droit de décider des futures lois auxquelles nous allons tous nous soumettre? Question importante, n'est-ce pas? Décisive pour notre société, pour nos libertés. Et maintenant, si je vous disais qu'il y a une autre question encore plus importante, encore plus vitale que celle que je viens de poser. Cette question s'adresse à toutes les personnes qui veulent suivre Jésus et même à ceux et celles qui le suivent déjà. Mamie Gussette y a répondu favorablement. Et ce matin, nous allons le voir dans le texte de Matthieu. Donc Matthieu, c'est l'un des disciples de Jésus, donc un témoin oculaire de la vie de Jésus. Dans son récit, Matthieu nous présente un roi et son royaume. Et ce roi n'est nul autre que Jésus lui-même. J'ignore ce que vous avez entendu sur Jésus, mais l'une des meilleures manières de le savoir, c'est de découvrir ce que la Bible elle-même en dit. Et ce matin, nous allons nous intéresser à trois choses. La première des choses, nous allons nous intéresser à la personne de Jésus, qui il est. Ensuite, on va voir quel est son message. Et enfin, nous terminerons avec quel est son appel. Donc, Jésus, une personne, Jésus, un message, et Jésus, un appel qui nous lance à tous. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans Matthieu 4. Matthieu 4, et nous allons commencer avec un verset, le verset 16. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Ce texte nous parle de Jésus. On le voit au verset 12 de ce chapitre 4. Alors, qui est la personne de Jésus? Dans ce texte, on voit que Jésus est un homme qui a une mission importante. Et cette mission est tellement cruciale qu'elle a été annoncée 8 siècles avant par Ésaïe, un prophète de la Bible. Regardons le texte. Ésaïe nous décrit une tension qui oppose ici Jésus, la lumière, à des personnes qui sont dans les ténèbres, sous la menace de la mort. Jésus est donc celui qui s'oppose aux ténèbres, c'est-à-dire au péché et à la mort. C'est le premier point que nous allons voir. Jésus, qui est Jésus? Jésus est celui qui sauve du péché et de la mort. Et si vous voulez le suivre, vous devez quelque part l'accepter. Une question pour vous, à votre avis, qui a le plus besoin d'être sauvé? Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour notre société, si on posait la question dans la rue, les gens répondraient que c'est probablement les personnes qui ont enfreint la loi, qui ont commis des délits et qui sont, pour certains, en prison en ce moment. Et justement, il y a 3 ans, je suis allé à Madrid, où Fred Sanchez, un aumônier de prison, nous avait invité pour jouer un match avec les prisonniers. Aujourd'hui, je me souviens encore combien j'avais peur de ce match. Ma peur découlait du regard que j'avais sur les prisonniers. Dans ma tête, j'imaginais des gens violents, qui n'ont pas froid aux yeux, des escrocs, des voleurs qui ont porté des armes, des tueurs, des violeurs. Et j'avais peur de me prendre un tacle qui me ferait très très mal. Et j'ai même peur qu'ils puissent... Il puisse y avoir une discussion sur une erreur d'arbitrage et que ça finisse en émeute, en bagarre. Je me dis, mais où est-ce que je vais partir? Je ne pourrais pas. Et je dois aussi avouer que je me sentais un peu plus juste que ces personnes-là. Je me sentais meilleur que ces personnes-là. J'avais tort. Et ce passage nous dit pourquoi. Jésus s'établit au milieu de ceux qui sont assis, c'est-à-dire ceux qui baignent dans les ténèbres. Il n'aura donc aucun souci d'être au milieu de ces prisonniers, car c'est pour eux justement qu'il vient. Et aux yeux de Jésus, nous sommes ces prisonniers-là. Nous sommes ces personnes-là qui avons commis des délits. Et vous voulez savoir pourquoi ? Le texte nous le montre encore une fois. Jésus vient aussi pour ceux et celles qui sont sous la menace de la mort, c'est-à-dire nous tous. C'est-à-dire tout le monde, vous et moi, la France et le monde entier, nous sommes sous la menace de la mort. Nous allons mourir un jour ou l'autre, ce n'est qu'une question de temps. Et en plus, la Bible nous donne une explication claire à la raison d'être de la mort. Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et le péché, c'est l'état de l'homme qui veut vivre sans Dieu. Un homme centré sur lui-même, sur ses désirs. Et c'était le cas à l'époque de Jésus, à l'époque où Matthieu écrivait ce récit. Le roi Hérode s'est dit, quand une femme me plaît, je l'épouse. Même si c'est la femme de mon frère. Il avait épousé la femme de son frère, au vu aussi de tous. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas immortels, c'est parce que, comme on vient de le voir, nous avons péché. Mais soyez rassurés, Jésus est là pour apporter une solution. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez suivre Jésus ? Et si votre réponse est affirmative, est-ce que vous êtes conscient que Jésus veut avant tout venir être la lumière dans les ténèbres de votre cœur ? Oui, c'est au milieu de cette noirceur, de ces pensées de supériorité, de jugement, de convoitise, que Jésus veut apporter sa lumière. C'est sous cette menace de la mort qui nous guette tous que Jésus veut apporter sa vie. Qui est Jésus ? Nous venons d'y répondre. Jésus est celui qui sauve du péché et qui délivre de la mort. Alors, question naturelle, comment est-ce qu'il le fait ? Comment est-ce que Jésus nous délivre du péché et de la mort ? Il explique lui-même dans son message et il accomplira lui-même à la croix. Du coup, intéressons-nous à ce message-là. Quel est le message de Jésus ? Il tient sur une phrase, c'est le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le message de Jésus est une injonction, est un ordre, un appel à la repentance. Si nous voulons suivre Jésus, si nous voulons le suivre, eh bien, nous devons nous détourner de notre péché. Voilà le message de Jésus. Et c'est notre deuxième point que nous allons voir ce matin. Si on regarde le texte, Matthieu nous dit que Jésus a annoncé ce court message de la repentance. Et pour comprendre ce message, pour comprendre le sens profond de ce message, nous allons maintenant presser comme un jus ces deux expressions pour en tirer la substance. Et du coup, il y a deux expressions. La première, c'est le royaume des cieux. Et la deuxième, c'est la repentance. Mais comme vous pouvez le voir dans ce texte, l'emphase est sur la deuxième partie. C'est parce que le royaume des cieux est là que nous devons nous repentir. Nous allons commencer par cette expression. Que signifie le royaume des cieux ? Cette expression revient souvent chez Matthieu. Et Christophe Payet, un théologien, nous explique que Matthieu veut distinguer le domaine de Dieu et de ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire le ciel, et le domaine du humain sans Dieu, la terre. Le royaume des cieux est proche signifie tout simplement que Dieu s'est approché des humains en la personne de Jésus. Et Matthieu nous montre ici qu'en Jésus, Dieu est présent par son autorité, par sa souveraineté et par son règne. Il a le pouvoir de régner au milieu de nos ténèbres, il a le pouvoir sur la mort. Et il est même au-dessus de l'issue de l'élection présidentielle de ce matin, de ces prochains jours. Et le plus dur, c'est que c'est devant lui que nous allons être amenés à rendre des comptes, un roi. Et c'est pour cette raison qu'il se permet de nous poser ces injonctions-là, ces ordres. Lorsque Jésus ordonne, il pose une question, l'enjeu est capital parce que c'est Dieu lui-même qui s'adresse à nous, qui nous interpelle. Et maintenant, que signifie « repentez-vous » ? Dans le chapitre qui précède, donc au chapitre 3 du même livre de Matthieu, Jean-Baptiste nous donne deux idées pour comprendre ce que c'est que la repentance. La première, c'est la confession des péchés. Donc c'est dans Matthieu 3, 5 à 6. Je lis, les habitants de Jérusalem, de la foule, enfin de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de Jean-Baptiste. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. C'est la première idée du sens de la repentance. Se repentir, c'est reconnaître son péché, le confesser à Dieu, éventuellement aux hommes. Et la seconde idée, liée toujours au même mot de la repentance, se trouve toujours dans ce petit chapitre 3. Regardez le verset 8 si vous avez vos Bibles. Verset 8. Jean-Baptiste interpelle les pharisiens en ces mots. « Produisez donc un fruit digne de la repentance. » La repentance, c'est aussi le fruit qui découle, qui en découle. Un changement radical de cap. Et à ce sujet, un prédicateur du nom de Charles Spurgeon affirme « Tout voleur craint la prison. Mais s'il est libre demain, il est plus que probable qu'il volera encore. Tout assassin tremble à la vue de la potence et de l'échafaud. Mais combien attenterait-il de nouveau à la vie de leurs semblables si elle leur était épargnée ? Je le répète, le trait distinctif de la repentance évangélique est non la crainte du châtiment, mais la haine du péché. Tel est, mes chers auditeurs, le grand travail qui doit s'accomplir en chacun de vous, sans quoi vous serez infailliblement perdus. La repentance, c'est la haine du péché. Et donc, si je résume, les trois ingrédients de la repentance sont donc une confession, confesser son péché, le dire à Dieu, une tristesse qui découle de la haine de notre regard sur notre péché et aussi un volte-face. Et encore une fois, c'est un roi qui s'adresse à nous. Et un roi a un droit de vie, un droit de mort. Mais ce même roi, on l'a chanté, grâce infinie, il veut que nous puissions reconnaître notre péché pour nous pardonner par sa grâce. Et c'est pour cela qu'il allait mourir à la croix et ressusciter. Alors que répondez-vous à ce que Dieu vous ordonne ce matin? Qu'est-ce que Jésus pointe du doigt en ce moment même dans ton cœur? Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos qui n'honorent pas Dieu, eh bien, Jésus ce matin vous invite à y renoncer. Si vous avez tendance à être le centre du monde, le centre de l'attention du monde qui est autour de vous, eh bien, ce matin, Jésus vous appelle à y renoncer aussi. Qu'est-ce que Jésus pointe du doigt en ce moment même dans ton cœur? On vient de le voir, Jésus nous appelle à nous détourner du péché de façon radicale par la confession, la tristesse et un volte-face. Il nous appelle à le faire pour quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus important, plus coûteux même. Parce que suivre Jésus, c'est s'abandonner totalement à lui pour marcher à sa suite. Et c'est notre troisième et dernier point que nous allons voir. Je prends à partir du verset 18 au verset 22, la suite. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, le père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur barque et leur père, et le suivirent. Dans ce passage choc, Jésus, après avoir côtoyé ses disciples, pendant un certain temps, il les appelle à tout quitter. Remarquez la promptitude avec laquelle ils obéissent. Pour Pierre, André, Jacques et Jean, l'appel de Jésus est plus important que leur métier. L'appel de Jésus est plus important que leur maison, que leur rêve. Et si on se place dans le contexte de l'époque, un homme avait la même profession, le même métier que son père. Et en renonçant à leur profession, eh ben, il renonce également à cet héritage familial-là. Ce choix est radical. Et ce choix nous permet également de mesurer l'importance de notre engagement, ce que nous mettons derrière, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est placer nos ambitions, nos rêves, après notre top priorité, qui est Jésus lui-même. Alors, Jésus n'est pas contre nos biens, mais si nous voulons suivre Jésus, nous devons lui reconnaître l'autorité sur qui nous sommes, mais également sur tout ce que nous possédons. Alors, suis-je prêt à renoncer à tout pour suivre Jésus ? Suis-je prêt à accepter son autorité sur ma personne, sur qui je suis et sur tout ce que je possède ? En préparant ce message, Dieu m'a amené à renoncer à une identité centrée sur mes compétences, sur ma compétence. Je me suis rappelé de comment j'étais il y a encore quelques années et de cette tendance qui me poursuit encore aujourd'hui. Je me souviens en seconde, j'avais été sélectionné pour être parmi les meilleurs de ma classe, dans une autre classe, une classe de première. Et en gros, je dois reconnaître une chose, c'est que je me suis senti un peu supérieur à toutes les autres classes de première de mon école, de mon lycée. Et du coup, j'ai construit une certaine identité sur mes compétences, sur ma capacité à traiter un problème, à résoudre un problème de maths, de sciences, ce que vous voulez. Et Jésus m'appelle à avoir une identité qui est construite sur lui et pas sur ces compétences-là. À renoncer à mon statut social, peut-être, mon statut de dirigeant, pour que lui, il soit le roi. En France, nous sommes sous des lois. Le prochain président va promulguer des lois. Et en tant que croyants, nous sommes dans un royaume. C'est le royaume de Dieu avec ses lois à lui, auxquelles nous devons tous nous soumettre. Suis-je prêt à renoncer à tout pour suivre Jésus ? À renoncer à une réputation sociale pour cela ? Et cette semaine, avec Véro, on s'est rendu compte qu'on avait tendance à attendre, à avoir des attentes pas très juste l'un vis-à-vis de l'autre. Et que Dieu nous appelait également à renoncer à avoir de mauvaises attentes l'un vis-à-vis de l'autre, pour que lui seul soit le premier. Je conclue avec quelques applications. Ce matin, nous avons vu trois choses. Nous avons vu que si nous voulons suivre Jésus, nous devons le reconnaître comme étant celui qui nous sauve du péché et de la mort. Et ce message est capital pour vivre la foi chrétienne, pour être sauvé. Nous devons donc nous assurer d'avoir, mais aussi de garder, une bonne compréhension de qui est Jésus. Et surtout, nous saturer de sa parole. Et notre Église propose des parcours découvertes sur la Bible. On entend beaucoup de choses sur Jésus. Et si vous faisiez votre propre avis ? Vous pouvez également opter pour un plan de lecture biblique. Cela permet d'avoir une lecture quotidienne et régulière de la parole. Le deuxième point que nous avons vu, son message, quel est le message de Jésus ? C'est se détourner de son péché. La parole de Dieu met en lumière notre péché et nous encourage à toujours mieux ressembler à Christ. Et deux autres moyens qui peuvent s'ajouter à cela, ça peut être la prière. Prier pour que Dieu nous montre, nous donne de voir notre mensonge, de voir l'adultère avec ses yeux à lui, c'est-à-dire avec un dégoût. Et qui nous donne la force de nous en détourner, parce que seuls nous ne pouvons rien faire. On peut également offrir à quelqu'un, une personne de confiance, le droit de regard sur notre vie, pour nous encourager, nous reprendre. Un groupe de croissance, par exemple, serait une excellente idée. Et enfin, le dernier point que nous avons vu, dans vu que suivre Jésus, c'est s'abandonner totalement et marcher à sa suite, le suivre comme les disciples l'ont fait. Jésus veut occuper la première place dans notre vie. Et c'est peut-être le moment de faire le point, de faire un bilan sur notre propre vie et d'être radical par rapport à ce que Jésus lui-même nous appelle à faire. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci parce que tu es venu sur terre et nous te louons parce que tu veux encore sauver aujourd'hui, tu veux encore nous délivrer du péché et de la mort. Et Seigneur, merci de pointer du doigt le péché dans nos vies. Et je te prie que tu nous donnes d'être radical par rapport à ça. Et surtout, Seigneur, apprends-nous à marcher à ta suite en nous abandonnant toujours plus à nous-mêmes pour marcher comme toi tu le veux. Pour ta gloire. Amen.